Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias, je m'appelle Steven Jambeau et je vous emmène cette semaine à la Cité Universitaire Internationale de Paris où se tenait la semaine dernière un événement entièrement consacré à la vidéo mobile à l'initiative de Samsa.fr. On va aller à la rencontre de journalistes, de producteurs et de tous ces gens qui se sont emparés de la vidéo mobile, c'est-à-dire avec leur smartphone, pour produire des contenus de qualité en images et en son.
Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là, merci à Philippe de m'avoir demandé d'ouvrir cette journée. Je me suis vraiment demandé au début pourquoi il voulait absolument que j'ouvre cette journée, parce qu'après tout, moi j'avais plutôt l'impression par rapport au mobile qu'il allait me considérer un peu comme ce singe dominant de cet espace devant le monolithe. Je travaille pour Arte, pour l'école de journalisme de Sciences Po, et quand j'ai commencé à faire du web, on faisait ça. C'est-à-dire que lemonde.fr, ça fait 20 ans, 21 ans qu'on l'a lancé, on faisait du modèle 14K. On mettait 85 secondes à télécharger la homepage. On avait chaque jour des conférences de pesage afin d'alléger la page. Et je me souviens tout à fait d'une conversation avec France Télécom quand il nous avait dit que peut-être un jour on arriverait à mettre de la photo, plusieurs photos basse def en homepage, mais qu'évidemment jamais au grand jamais on aurait de la vidéo sur le net.
http://atelier.rfi.fr.
Alors, je m'appelle Julien Pin et je suis rédacteur en chef à France Info.
À France Info, tu es en charge des modules. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Les modules, c'est une équipe qui travaille à la fois sur la production de reportages et d'émissions de télévision et sur leur déclinaison sur le web et les réseaux sociaux.
Et tout à l'heure, dans ta présentation, tu as dit que ce qui t'excitait le plus, c'était les stories Instagram. Pourquoi ?
Parce que moi, ce que j'aime, c'est surtout le reportage. Et qu'en termes de reportage, pour l'instant, les réseaux sociaux n'avaient pas offert des possibilités particulières. C'est-à-dire que si on poste, par exemple, son travail sur Facebook, on le sous-titre, on le monte un peu différemment, mais finalement, on reste sur une narration assez classique, avec on va d'un point A à un point B, et entre les deux, on regarde. Et avec les stories, là, ça offre des possibilités extrêmement intéressantes. Une story, tu peux avancer, tu peux reculer, tu peux mettre en pause, tu peux mettre du texte, tu peux mettre de la vidéo, tu peux mettre de l'image fixe, tu peux mettre de l'interactivité parce que tu peux demander à ton public de faire un retour direct sur ta story, tu peux ajouter un sondage et ils sont en train d'ajouter des fonctionnalités tous les jours. Et tout ça pour un reporter, c'est hyper excitant parce que tu peux jouer avec.
Ouais, je viens d'arriver à Cox's Bazar, je suis à peu près à 2 heures de la frontière birmane. Cox's Bazar, c'est là où sont regroupés les réfugiés Rohingyas. Il y en a plus de 1 million actuellement. Ça en fait l'un des plus grands camps de réfugiés de la planète. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est quasiment la taille de la ville de Marseille.
Un des grands reportages que tu as fait dernièrement, c'était dans un camp de Rohingyas au Bangladesh. Comment est-ce que tu as pensé ce reportage en mobile, en amont ?
Dès le départ, je suis parti pour faire d'abord des stories Instagram. Ça change complètement la... ton état d'esprit, parce qu'en général tu pars pour faire de la télé et puis après tu te dis tiens comment je vais le mettre sur le web. Non, moi je suis pas parti comme ça, je suis parti en me disant je veux d'abord faire des stories Instagram et puis je vais aussi faire de la télé. Ça veut dire que sur le terrain tu réfléchis tout de suite format vertical par exemple. C'est-à-dire que dès que tu filmes un plan pour la télé, tu te demandes ah oui mais est-ce que celui-là je vais pouvoir le retailler pour en faire un plan vertical, et si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut que je filme directement avec mon iPhone pour avoir les plans qui vont bien. Pareil quand tu fais un plateau face à la caméra, et tu te demandes d'abord où est-ce que je vais filer le plateau pour que, avec mon smartphone, en le tenant à bout de bras en mode selfie, ça rentre bien. Et puis après, tu te dis, je vais faire le même face à une caméra en mode télé. Donc en fait, tu inverses complètement la façon de réfléchir. Et ensuite, tu fais un storyboard où tu as déjà pensé ton storyboard comme une succession de slides et pas comme une succession de séquences. Et c'est très différent. En télé, tu penses séquence. Sur Instagram, tu penses slide. Et slide qui fait maximum 15 secondes. Donc, faut penser son storyboard comme ça.
Dans ta présentation, tu as justement raconté qu'il y avait deux façons de travailler des stories. Soit de façon quick and dirty, donc l'idée de faire quelque chose de rapide et de brut. Soit d'avoir une approche beaucoup plus professionnelle, de travailler avec des ordinateurs, d'avoir une dimension production et d'être moins sur le terrain, en prise avec le terrain. Est-ce que c'est ce vers quoi, à France Info, avec ton équipe, tu souhaites te tourner ?
J'ai parlé des deux options parce que pour l'instant, honnêtement, on n'a pas encore pris de décision et on teste les deux. C'est-à-dire que j'ai des fois des reporters qui partent pour faire une story rapide plus d'immersion, c'est-à-dire on sent qu'elle est faite sur le terrain, on sent qu'elle est moins léchée, mais on voit bien qu'elle est en prise avec le terrain très rapidement. Et puis, je fais aussi des stories avec plus d'infographie, plus de travail de post-production, et donc qui sont pas faites dans l'instant, mais qui sont faites pour durer. On teste les deux, et puis on va voir honnêtement ce qui accroche le mieux. Peut-être qu'on continuera à faire les deux types de stories, parce que, par exemple, quand on fait du grand reportage, on a quand même envie que le produit fini soit léché. Par contre, quand on va juste filmer une manif et on a envie très rapidement de donner l'info, on fait du quick and dirty. Donc peut-être qu'on gardera ces deux formats suivant le reportage qu'on va faire. Peut-être qu'à un moment, on se dira, non, il faut faire que du quick and dirty, parce que finalement, sur Instagram, c'est ça que les gens attendent. Et là, j'ai pas la réponse.
Et pour ta hiérarchie et pour la direction de France Télévisions, est-ce que c'est facile de les convaincre? Est-ce qu'ils sont maintenant convaincus que ce format mobile et ces formats stories sont le futur?
Ah, c'est, je veux dire, comme dans tous les médias, on convainc pas une hiérarchie en deux minutes, parce que les critères d'évaluation dans mon monde à moi, moi je travaille pour la télé, c'est d'abord des audiences télé. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où forcément, ce qui est très important, c'est d'avoir des bonnes audiences à la télévision. Et après, le fait d'avoir aussi des bonnes audiences sur le numérique c'est compliqué, c'est-à-dire que il y a un critère qui est le nombre de pages vues que tu vas faire sur Internet et le nombre de vidéos vues que tu vas faire sur les réseaux sociaux. Et pour rentrer dans le détail, eh bien le fait de faire des vidéos vues sur les réseaux sociaux, moi ça m'intéresse, parce que quand tu travailles dans l'image, dans la télé, eh bien c'est là que tu as le débouché le plus important. Donc combien tu fais de vidéos sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram maintenant, ça c'est un critère d'évaluation qui est encore peu développé à France Télévisions, et donc on est en train de travailler pour dire que voilà, il y a des audiences télé, on sait les mesurer, maintenant prenons en compte le fait qu'il y a les 15-25 ans qui nous connaissent pas parce qu'ils nous ont vus à la télé, mais parce que on a fait des millions de vues sur les réseaux sociaux.
C'est ça justement l'objectif, c'est toucher un public jeune et toucher un public qui ne regarde plus la télévision?
Bah, c'est toucher un public qui regarde plus la télévision et encore
qui ne l'a jamais regardé d'ailleurs
et qui s'en fiche complètement de la télévision. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne sait pas des gens qui ont abandonné la télévision, c'est des gens qui ne savent même plus que ça existe, la télévision. Quand on parle avec un mec de 15-20 ans, le journal de 20h, c'est pas qu'il l'a abandonné, c'est qu'il ne l'a jamais regardé et il voit pas du tout pourquoi il le regarderait. Donc il faut bien tenir compte de ça, et c'est à nous de nous adapter. Ça veut pas dire qu'il s'intéresse pas du tout à l'information. Ça veut simplement dire qu'ils ne s'assoient plus sur le canapé avec leurs parents pour regarder le 20h. Voilà.
Merci Julien Pain.
Je t'en prie. À bientôt.
Au sein du mobile, la vidéo a une place croissante. Là, vous avez les chiffres entre 2013 et 2018. Tout ça sera disponible, qui vous montre effectivement la vidéo mobile aujourd'hui est devenue l'usage majeur sur mobile. Donc le mobile devient l'outil de connectique majeur. Et au sein du mobile, la vidéo prend une part de plus en plus importante.
Moi, je m'appelle Annelise Borges, je suis correspondante d'Euronews et j'ai réalisé un reportage pendant mon temps à bord d'Aquarius, pendant 10 jours que je passais à bord d'Aquarius.
Alors l'Aquarius, c'est un bateau qui est déployé en Méditerranée, qui vient en aide aux embarcations de migrants en détresse. Comment est-ce que vous avez travaillé journalistiquement sur place ?
C'était très particulier comme mission. C'était ma première mission avec MSF à bord, un bateau de sauvetage.
Médecins sans frontières, donc.
Absolument. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à couvrir la crise de réfugiés syriens dans la frontière turco-syrienne, en Grèce, en Hongrie, en Macédonie. Enfin, j'ai vraiment fait un peu tout leur parcours en 2015. Et donc, je me suis beaucoup approchée de ces sujets-là. J'avais aussi fait d'autres angles ce sujet, mais effectivement, les bateaux, moi, je connaissais pas. Je savais pas comment ça fonctionnait. Et donc, j'ai demandé aux Médecins Sans Frontières de me laisser venir à bord. Ils font ça régulièrement. Ils invitent les journalistes pour passer donc jusqu'à 3 semaines avec eux en mission. J'ai posé la question si je pouvais venir. J'ai commencé à négocier ça en novembre et le prochain voyage c'était en juin, donc il a fallu attendre beaucoup, mais donc j'ai tombé vraiment au bon moment, enfin bon moment ou pas, ça dépend de comment on regarde l'angle de cette histoire, lorsque l'Italie a décidé donc de fermer ses ports à l'Aquarius, et donc c'était un peu le début de la fin de cette mission, parce que malheureusement là maintenant l'Aquarius n'est plus n'opère plus en Méditerranée.
On va s'intéresser un petit peu aux moyens techniques que vous avez embarqués avec vous. Vous êtes parti à bord avec quel dispositif technique ?
Je suis parti à bord Aquarius avec deux téléphones mobiles, avec un trépied avec un Osmo, donc c'est-à-dire un stabilisateur d'image, et avec un drone, un DJI Spark, un petit drone pour iPhone, donc vraiment très 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 compact. Après j'avais une petite caméra de sport pas chère du tout pour pouvoir donc amener avec moi pendant le sauvetage, parce qu'on s'attendait à un sauvetage. On savait pas trop comment ça allait se passer, mais on savait que à cette époque-là et surtout en cette période de l'année, le temps il fait beau et donc il y a beaucoup de traversées.
Et pourquoi ce dispositif léger justement ? Est-ce que cela vous a été imposé ou alors est-ce que c'est vous qui vous êtes dit eh bien ce sera plus facile d'approcher les gens sur le bateau avec un smartphone qu'avec une grosse caméra ?
Ça faisait partie en fait de cette nouvelle version d'Euronews, donc mon employeur actuel, qui m'a proposé d'être leur correspondante Mojo, Mobile Journalist, donc munie uniquement d'un iPhone. Je t'avoue que j'étais pas très persuadée, enfin convaincue, j'avais un peu peur de comment ça allait se passer, mais moi j'avais travaillé déjà sur des modèles investigatifs. Je suis allée par exemple au Venezuela où j'ai embarqué un téléphone portable dans un hôpital pour voir la situation des hôpitaux à Caracas. Et donc je connaissais la qualité de l'image, la facilité de travailler avec un téléphone. Et donc je me suis dit bah, pourquoi pas, on va essayer. C'était un pari.
Vous étiez toute seule ?
J'étais seule. J'étais seule pendant ces 10 jours, ouais.
Et alors, ce pari, vous l'avez réussi ?
Oui, absolument. Je pense que c'était un pari réussi. On a pu vraiment raconter un côté de cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un débat qui se passait au niveau politique à Bruxelles, mais aussi en Italie, en France, etc., avec ces dirigeants européens qui réagissaient un peu à la décision de l'Italie de fermer ses ports. Et donc ce débat qui est devenu un peu une crise diplomatique, qui a évolué et qui a même un peu menacé l'Union européenne et a testé un peu les valeurs de certains pays européens, ces débats-là, et je pense qu'on a, moi autant que donc Mobile Journalist, mais aussi mes collègues, un collègue de la Radio Nationale Espagnole et un collègue des collègues de El País, on a un peu aider ce débat-là avec les voix du bateau. On a tout simplement été très proche de ces personnes-là, que moi je n'appelle plus ni migrants ni réfugiés, moi j'appelle tout simplement des personnes qui essayaient effectivement, qui ont tout risqué pour essayer une vie meilleure en Europe.
Justement, vous ont-ils confié des choses ou est-ce que vous avez eu l'impression que le fait d'arriver avec un smartphone, que c'était moins intrusif et peut-être des moyens plus légers, moins lourds, et que c'était moins intimidant pour les migrants qui étaient recueillis à bord de l'Aquarius ?
Absolument, c'était beaucoup moins intimidant, c'était beaucoup plus intime. Ça, it's a game changer, comme on dit en anglais, c'est vraiment, ça a tout changé. Cette couverture-là avec une caméra, ça n'aurait aucun rapport avec ce que moi j'ai pu faire. Sur mes sujets, si on regarde les images que j'ai pu tourner, il y a des très gros plans. C'est-à-dire que je m'approche vraiment des gens. Et ça, c'était volontaire. Et ça, c'était aussi la réalité des choses, parce qu'on était très proches. On a passé beaucoup de temps ensemble. L'espace était réduit, donc on a passé beaucoup de temps pas collés les uns les autres. C'est pas comme si on dormait pas ensemble. Les journalistes et les volontaires, on avait nos cabines, on était beaucoup plus confortables que ces personnes-là. À un moment, il y avait 630 personnes à bord. Eux, ils dormaient un peu partout, sur le deck, dehors. C'était très compliqué pour eux, mais nous on a passé vraiment beaucoup de temps où on se réveillait ensemble, on allait dormir en même temps, on mangeait ensemble, enfin on a développé une relation humaine, enfin forcément, parce qu'on passait beaucoup de temps ensemble et on les entendait et on les entendait parler de leur vie d'avant, de leurs attentes, de leurs craintes, et je pense que ça on a pu passer aux téléspectateurs, enfin, ceux qui voulaient regarder, aux audiences, soit via Twitter, soit via Instagram, soit via la télé pour Euronews et le site web. C'est-à-dire qu'on avait cette espèce de, véhicules multiples, on avait plusieurs plateformes, et moi j'ai vraiment, je me suis servi de toutes ces plateformes. J'ai envoyé des directs pour l'antenne d'Euronews, mais j'ai envoyé aussi beaucoup de vidéos sur Twitter par exemple, surtout quand il fallait envoyer l'information vite. Il y avait une réaction soit d'une personne qui avait été sauvée, soit d'un volontaire d'un bénévole de MSF ou d'OSS Méditerranée qu'il fallait réagir par exemple, qui venait de réagir par exemple à une déclaration de Salvini ou une
ministre italien de l'intérieur.
Absolument. Et donc chaque fois qu'il y avait ça, on diffusait sur Twitter, et Euronews a aussi joué le jeu. Ils s'en servaient vachement de Twitter, qui était quelque chose de pas nouveau pour eux, mais on n'avait jamais expérimenté ce genre de couverture. Et surtout, on était la seule télé, et donc ça a joué aussi un rôle, parce que l'image, c'était très important pour nous, et on a pu la diffuser à travers, avec le téléphone, grâce au téléphone, et à travers toutes ces plateformes-là.
Merci beaucoup, Annelise Borges.
Je vous en prie.
Ah, salut tout le monde, je m'appelle Thomas Gauthier et bienvenue sur TV5 Monde pour ce nouveau numéro du magazine Les Haut-Parleurs. Bon, alors Les Haut-Parleurs, c'est des jeunes vidéastes francophones de partout dans le monde qui parlent de sujets qui les touchent. Et aujourd'hui, on va parler de l'ensemble des sujets positifs qui se sont passés dans le monde dans la dernière année. Juste ça.
Oui, bonjour, je m'appelle Claire Le Proust, je suis productrice et en particulier je produis Les Haut-Parleurs. On donne la parole à des jeunes reporters francophones partout dans le monde.
Alors la particularité, c'est que vous utilisez de plus en plus, et les reporters aux quatre coins du monde utilisent de plus en plus leur smartphone. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce qu'il y a une approche spécifique des Haut-Parleurs avec le smartphone?
Oui, dans la mesure où nous, on s'est tout de suite positionné sur un journalisme à la fois créatif, à la fois plus spontané, de proximité, puisqu'on n'en voit personne, tout le monde est sur son terrain. Et du coup, filmer avec son smartphone, ça permet une proximité plus grande et aussi une authenticité de l'image et de la façon de traiter les sujets. Donc ça, c'est clairement quelque chose qu'on a vu. Ensuite, est-ce qu'ils utilisent systématiquement un smartphone? Non. Il y en a certains qui ont des caméras, des appareils photo caméras, donc ils sont plus ou moins bien dotés, mais régulièrement, en tout cas, pour tous ceux qui viennent plutôt du vlog ou qui sont plutôt dans des endroits où il y a besoin d'être un peu en immersion, où il y a besoin d'aller filmer des images un peu à la volée, dans des endroits où c'est parfois un peu touchy de filmer avec une plus grosse caméra. Du coup, ils ont recours au smartphone et donc ça apporte en fait cette proximité qu'on recherche nous et qui est vraiment appréciée par les spectateurs en fait.
Et pourtant, vous êtes en recherche de qualité. Et ce n'est pas incompatible, le fait d'utiliser un smartphone et de faire de la qualité en vidéo.
Non, absolument, ce n'est pas du tout incompatible. D'abord parce que nous, quand on travaille avec tous ces jeunes reporters, d'abord, ils nous proposent leur sujet, un sujet qui leur tient à cœur, qu'ils ont envie de défendre, déjà. Deuxièmement, on discute avec eux du sujet, de comment ils vont aller le tourner, qui ils vont aller voir, qu'ils ont... Et puis aussi leur mode de réalisation. S'ils utilisent tel et tel type d'image, est-ce qu'ils vont y rajouter du dessin? Est-ce qu'ils vont y rajouter de la danse? Est-ce qu'ils vont rapper leur sujet, etc.? Donc tout ça fait un ensemble qui est déjà pensé en amont. Et puis ensuite, quand ils vont tourner, ils ont déjà... en tête leur conducteur, d'une certaine manière. Ils reviennent avec tout ça, ils dérochent, et au moment où ils dérochent, ils vont petit à petit construire leur reportage avec un script qu'ils écrivent, qu'ils nous envoient, qu'on rediscute avec eux, et là, ils passent à la phase montage, et ensuite, on reçoit leur vidéo. Donc, il y a tout ce travail qui reste un travail journalistique, même si on s'attache à ce qu'ils mettent leur personnalité, de la spontanéité, de l'authenticité, et une forme de créativité importante, quoi.
Est-ce que la façon de se mettre en scène dans ces reportages a évolué justement avec le mobile ?
Oui, elle a évolué dans la mesure où ils sont moins... quand ils se filment beaucoup plus proche de la caméra, donc de cet écran smartphone qui les filme. Ils sont pas du tout en mode tronc comme on peut voir dans des présentations de JT. Donc déjà, il y a une première, il y a une première différence du rapport au corps en fait qui est filmé. La deuxième, c'est qu'ils s'adressent à l'audience beaucoup plus que quand il parle à une caméra, où très souvent, vous remarquerez, le regard se détourne, et on a tendance à regarder plutôt celui qui est en train de filmer, ou plutôt un autre petit angle de la caméra, alors qu'avec un portable, on regarde clairement l'écran qui est face à soi. Après, ça va dépendre aussi de comment il pose en fait ce smartphone-là. Soit ils sont en train de bouger, donc ils tiennent avec un stabilisateur, le cas échéant, mais leur portable à la main, et donc là, on les voit se mouvoir en même temps qu'ils se filment. Soit ils ont décidé d'être plutôt en plan fixe, et auquel cas ils ont stabilisé ou posé leur smartphone pour se filmer, ce qu'ils peuvent faire très souvent, plus quand ils sont en intérieur qu'en extérieur.
La particularité des haut-parleurs, c'est que c'est également diffusé à la fois sur le web, mais aussi à la télévision. Est-ce que ça change quelque chose, justement ?
Alors, ce que ça change, oui, d'abord exactement, les haut-parleurs, c'est né d'une idée qu'on a eue, parce qu'on voulait donner cette parole plus libre et plus personnelle à pas mal de jeunes reporters qui ne trouvaient pas forcément avec des médias traditionnels. Et donc, le premier qui nous a permis de lancer les haut-parleurs, c'est TV5 Monde. Et donc, c'est avec TV5 Monde qu'on construit un réseau de diffusion qui est à la fois sur les réseaux sociaux, sur le site, mais aussi à la télé, soit dans le cadre de magazines, soit dans un magazine spécifique qui s'appelle le magazine Les Haut-Parleurs, qui est diffusé tous les mois à l'antenne. Je dirais que ce que ça change rien pour nous, parce qu'on garde ce même prisme de qualité, comme vous disiez tout à l'heure. Par contre, ça apporte de la fraîcheur à l'antenne.
Merci, Claire Le Proust.
Ben merci, et longue vie à tout ce que vous faites, parce que j'adore.
Making love with you is all I wanna do. Alors, je suis Noël Kokouta-Dégnon, je suis journaliste multimédia et formateur, je viens du Togo.
Vous êtes basé à Lomé précisément, c'est cela ?
Je suis basé à Lomé au Togo.
Est-ce que l'on peut dire que vous êtes un des premiers journalistes mojo, un des premiers journalistes mobiles dans la sous-région ?
Ben, c'est vrai que ça fait un bon moment que j'utilise le téléphone, le smartphone pour pouvoir faire mon travail. J'ai commencé par toucher à cet outil, ou bien j'ai découvert cet outil quand j'étais aux États-Unis. Et donc ça m'a donné envie de pouvoir véritablement me l'approprier. Aujourd'hui, je m'en sers dans le cadre de mon travail. J'essaie de tourner des reportages multimédia avec mon smartphone. Heureusement que l'outil est en pleine évolution d'ailleurs, les téléphones sont en train d'évoluer, et donc ça nous facilite la tâche. Et dans le même temps, je me dis, pourquoi ne pas transmettre ce que je sais faire aux autres? Et donc c'est pourquoi j'essaie toujours d'initier des formations au profit des journalistes, au profit des jeunes du Togo et de la sous-région est-africaine.
Alors justement, vous voyagez beaucoup dans la région. Au niveau des usages de la part des journalistes des téléphones mobiles, des smartphones, avez-vous vu une évolution ces dernières années ?
C'est vrai que c'est un peu timide, mais de plus en plus, à travers les actions, les formations qui sont organisées, les actions de sensibilisation, de plus en plus de journalistes utilisent leur smartphone pour pouvoir faire leur travail, réaliser des reportages. Et je pense que ça sera beaucoup plus visible d'ici peu, vu que les smartphones sont de plus en plus accessibles et qu'ils ont compris qu'il est possible de réaliser des travaux de mojo avec un smartphone qui ne coûte pas excessivement cher. Parce que la grande difficulté, c'est cet outil à ce niveau. Parce qu'il est difficile aujourd'hui, vu les conditions de vie en Afrique de l'Ouest, à un journaliste de s'acheter un smartphone qui coûte 1 000 euros. Et du coup, ils ont compris qu'il est possible aujourd'hui de faire ce boulot, de faire du multimédia avec des smartphones bas de gamme. Et le plus important, c'est de savoir utiliser l'outil, de savoir utiliser le téléphone. Et donc voilà, je pense que avec les actions que nous menons ensemble avec d'autres collègues, on aura beaucoup, de plus en plus, beaucoup de journalistes qui vont se lancer sur ce terrain.
Y a-t-il des personnes ou des médias qui, pour vous, constituent des exemples, justement, en Afrique de l'Ouest, d'utilisation du smartphone et d'utilisation de la vidéo mobile à des fins d'information ?
Ben, je prends l'exemple d'Agribus Nest TV, qui est basé au Burkina, avec Inoussa Maïga, qui, par moment, utilise le smartphone pour réaliser ses reportages. Et c'est un bel exemple de réussite, en tout cas, en termes de multimédia aujourd'hui. C'est vrai que tous les correspondants n'ont pas encore la notion du mojo. Mais je crois qu'avec le temps, ils vont pouvoir aussi faire comme Inoussa, qui, en tout cas, pour moi, aujourd'hui, est un exemple à suivre.
Merci Noël Tadignon.
Merci.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr. Bonjour, alors je suis Laurence Allard, maître de conférences à l'Université de Lille en tant qu'enseignante et chercheuse à l'IRCAV, Institut de recherche sur le cinéma, l'audiovisuel et les médias, et cofondatrice donc du groupe de recherche Mobile et Création qui existe depuis 2012. Nous en sommes à notre 8e colloque annuel. En 2016, nous avions consacré un colloque au lien entre mobile et journalisme. Et récemment, nous avons fait paraître une revue, Théorème, avec un numéro spécial sur les enjeux artistiques et esthétiques de la création mobile.
Votre intervention au cours de ces troisièmes rencontres francophones de la vidéo mobile porte sur une question. Qu'est-ce que nos vidéos disent de nous ?
Alors voilà, donc c'est une intervention qui va peut-être réouvrir ce qu'on entend par vidéo. Puisque la vidéo mobile, pour moi, fait partie d'un ensemble plus vaste que j'intitule les mob textes, qui sont un petit peu le corpus des contenus créés par les applications de messagerie sociale. C'est un peu l'équivalent de l'hypertexte pour le web, c'est-à-dire des formes de textualité qui ne sont pas linéaires, comme l'hypertexte, et les formes de textualité propres aux applications mobiles, c'est plutôt leur diversité sémiotique, c'est-à-dire de se présenter comme des composites entre le texte, l'image et le son. Et donc c'est voilà une forme d'une spécificité sémiotique qu'il faut relever
et qui est propre à chacun, c'est-à-dire que chaque journaliste ou chaque citoyen qui s'empare de ces nouveaux outils, eh bien le fait avec sa propre patte sans qu'il y ait véritablement de règles institutionnalisées que tout le monde doit ou va suivre.
Oui, on est vraiment dans ce que le philosophe du langage Ludwig Wittgenstein appelait les jeux de langage, c'est-à-dire une grande partie aujourd'hui finalement de la sémiotique et l'œuvre des énonciateurs. Et donc c'est eux qui inventent finalement les jeux de langage mobile sans qu'il y ait de langue fixée, sans qu'il y ait un système grammatical codifié. Donc c'est vraiment la vague des usages qui est en train de créer, à travers les interactions, qui est en train de créer finalement le langage, la textualité de ce que j'appelle le mob texte d'un point de vue sémiotique.
Alors, il y a à la fois la question du langage, mais il y a la question aussi de l'image et de la façon dont les gens se mettent en scène. Qu'est-ce que vous avez observé là-dedans ces dernières années ?
Bon, bah, évidemment, là, on fait référence aux selfies. Alors, bon, bah, il y a beaucoup à dire sur le selfie. Aujourd'hui, on a une très bonne illustration des enjeux presque sociopolitiques du selfie quand on observe et on analyse le mouvement des Gilets jaunes, puisqu'une grande partie de ce mouvement consiste à s'auto-médiatiser. Et dans sa participation aux manifestations, dans des prises de parole. Et
donc, par exemple, sous forme de Facebook Live, c'est ça ?
Il y a les Facebook Live, il y a les Snap, les stories, hein, sur Snap ou les stories sur Instagram. Et donc, il s'agit finalement, au nom propre, de dire pourquoi on manifeste, pourquoi on porte un gilet jaune. Et donc, il y a cette idée que finalement, si l'on peut se représenter soi-même, si l'on peut se médiatiser par soi-même, il y a une double mise en crise, à la fois crise de la représentation démocratique et puis une crise de la médiatisation telle qu'elle existe et qu'elle est effectuée par les médias traditionnels. Et donc on a des enjeux sociopolitiques qui sont assez importants lorsqu'on analyse les corpus de selfies de gilets jaunes, les lives mobiles. Et puis, aussi très intéressant, les enquêtes collectives qui sont menées par le regroupement de différentes vidéos, par exemple autour de l'accident de Jérôme Rodriguez. Vous avez tout un ensemble de vidéos qui ont été prises de différents points de vue, qui sont mises en commun pour mener une enquête sur, finalement, était-ce une grenade de désencerclement, était-ce un LDB. Et donc, c'est intéressant de voir comment, finalement, on peut mener une enquête sociale à partir de ces points de vue individuels sur un événement. Voilà, et donc là, c'est assez intéressant de voir qu'il y a un devenir média, en fait, des vidéos mobiles que chacun peut prendre dans une manifestation. Vous avez même un média des Gilets jaunes qui consiste en live Facebook avec Vécu, qui s'est fait pirater par ailleurs parce qu'il y a des dissensions à l'intérieur du mouvement, si c'est un mouvement uniforme, hein, des Gilets jaunes. Mais voilà, donc avec ce média Vécu, c'est vraiment l'idée de passer du voir, du vu à la première personne, au vécu collectif, hein, puisque c'est un média qui se veut construit en défiance vis-à-vis des médias traditionnels pour témoigner de la violence policière que justement les reportages télévisés officiels ou dans les médias mainstream ne diffusent pas.
Donc oui, cela montre justement que les médias et que une partie de la population ne se retrouvent pas dans les vidéos et dans les contenus produits par les médias traditionnels et donc ils créent leurs propres médias.
Oui, c'est ça. Il y a l'idée qu'ils ne sont pas représentés médiatiquement et que d'une certaine façon, la représentation nationale, députés, Sénat, gouvernement, président, ne les représente pas non plus. Et donc, il y a cette idée voilà, de se représenter soi-même.
Donc, ça passe par l'image.
C'est là où j'appelle plus des mob textes, parce que ça a l'air d'être des images, mais ce sont des contenus beaucoup plus composites. Un snap, il a une part textuelle, il peut être redessiné, il peut être... Et il y a en effet une photographie. Donc je dis souvent que le selfie, c'est un peu une page blanche, en fait, sur laquelle on va écrire sur soi, à partir sur soi-même, de son propre point de vue, mais on n'est pas du tout dans l'image qu'on appelle icône, c'est-à-dire qui va vous représenter. On est plus là en train de se présenter au monde, et donc on est plus sur une plateforme d'expression personnelle. Donc je suis assez contre l'idée de faire de rabattre la culture mobile comme une simple culture visuelle. Ça, c'est vraiment un iconocentrisme qui est dommageable pour analyser la richesse en fait des contenus issus des applications de messagerie mobile.
En regardant toutes ces tendances avec votre œil d'universitaire, est-ce que vous arrivez à entrevoir ce que sera le futur de la vidéo mobile ?
Alors, je pense que la vidéo mobile, notamment telle qu'elle est développée avec le mobile journalisme, a un grand avenir parce que ça peut s'inscrire dans, paradoxalement, la recherche d'une sobriété numérique. Donc il y a tout un mouvement en ce moment de réflexion sur finalement aussi le coût environnemental de ces plateaux télévisés utilisant X watts avec des spots, donc tout ce qui est cette télévision du samedi soir qui est extrêmement énergivore, et donc peut-être avec cette dimension un peu plus low-tech qu'à la vidéo mobile, au plus près en fait de ceux à qui l'on souhaite donner la parole et ceux qui font l'actualité, il y a peut-être cette idée que la vidéo mobile, c'est peut-être l'avenir même de la télévision et des médias en général, dans un contexte environnemental qui va supposer de la frugalité, ne pas développer plus avant la technologie parce qu'on n'en a pas les ressources naturelles.
Merci beaucoup Laurent Salaire.
Merci à vous.
C'est la fin de cette émission que vous pouvez entendre en version longue sur notre podcast. Elle a été réalisée par Simon De Creuse, au micro Steven Jambeau. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. D'ici là, et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner au podcast de l'Atelier des médias.